Bénédicte ou la femme laid. Il y avait autrefois une comtesse de Poitiers, nommée Honorinde, à qui son destin venait de donner pour mari le plus grand chasseur de l'univers. Cet homme aurait volontiers passé sa vie dans les bois, où il poursuivait nuit et jour ce que nous appelons en style de métier la grosse bête. Étant demeuré vainqueur d'un monstrueux sanglier, il lui avait lui-même abattu la tête, et cette hure, encore mouvante et ensanglantée, il va la présenter à la dame, sa dame, sur un grand bassin. La jeune femme était alors dans le premier mois de sa grossesse. Elle eut de la répugnance et de la frayeur à contempler cette hure encore menaçante. Elle s'en troubla au préjudice de son fruit. Et 8 mois ou 7 mois et demi après, elle mit au monde une fille qui, dans son corps, avait forme humaine, mais au-dessus, une épouvantable tête de sanglier. Imaginez quel cri, quelle douleur, quelle consternation. Et le comte, abattu et désolé, ordonna d'aller noyer cet enfant. Et au lieu de le jeter à l'eau, le valet scrupuleux s'en alla droit au monastère de Fontevraud. Il déposa le paquet fermé dans l'église des moines, puis se retourna chez son seigneur, qui n'eut plus jamais d'autre enfant. Les religieux bénédictins, ne sachant d'où venait ce monstre, crurent qu'il y avait là-dessous du prodige. Ils baptisèrent en cette personne tout ce qui n'était pas du sanglier et s'en remirent pour leur surplus à la Providence. On éleva dans le plus grand secret cette singulière créature qui buvait et lapait à la manière de ses pareils. En grandissant, elle marcha sur ses pieds et sans la moindre imperfection. Elle savait s'asseoir, se mettre à genoux et faisait même la révérence. Mais elle n'articula jamais des paroles distinctes. C'était toujours d'une voix rauque et lugubre qui hurlotait et grommelait. Son intelligence n'alla jamais jusqu'à savoir lire et écrire, mais elle entendait aisément tout ce qu'on lui pouvait lui dire. Et la preuve, c'est qu'elle y répondait par des actions. Le comte de Poitiers étant mort à la chasse, Honorinde apprit de son vieux serviteur en quel asile, en quel dépôt il avait jadis déposé la petite. Cette bonne mère s'y transporta, et les moines, après quelques façons, avouèrent ce qu'il en était. Elle voulut la revoir. Ils la lui montrèrent. À cet aspect, elle ressentit la même commotion intérieure qui avait, dans le temps, perverti la nature. Elle gémit, s'évanouit, fondit en larmes. Elle n'eut jamais le courage et la fermeté d'embrasser ce qu'elle voyait. Sa reconnaissance n'en était pas moins vive et sincère. Elle remit une somme considérable aux bénédictins de Fontevraud, les chargeant de continuer leur bonne œuvre et leur charité. Le père prieur, faisant réflexion que sa pensionnaire étaient de grandes familles, quoique hideuses, et d'une famille à grand bien, résolue de la faire avoir à son neveu par mariage. Il s'en ouvrit à ce jeune homme, qui regarda fixement la petite et assura qu'il s'en contentait. Elle est chrétienne, répondit-il à son oncle, puisque vous l'avez ici baptisée. Elle est d'une bonne maison, puisque Andrine l'a réclamée. On en voit d'aussi laides, qui vont pourtant trouver des maris. Je mettrai un joli masque à la place, sur la hure, et ce masque fera suffisamment illusion. Bénédicte a cela près bien faite. J'espère avoir de beaux enfants, mais qui parleront. Le prieur commença par les mariés. Il en fit part ensuite à Honorinde, qui, n'osant ébruiter cette existence, fut réduite à supporter ce qu'on avait fait. Le mariage de la jeune laie ne fut point heureux. Elle mordait son mari du matin au soir. Elle n'entendait rien à se mettre à table et voulait manger que dans son baquet. Il ne lui fallait ni fauteuil, ni sofa, ni bergère. Elle s'étendait sur la table ou sur le pavé. Son mari, au désespoir, demanda la cassation de son mariage. Et comme les tribunaux n'allaient pas assez vite, au gré de son impatience, il la tua d'un coup de pistolet, sa compagne Bénédicte, au moment où elle le mordait et le déchirait devant témoins. Honorade la fit inhumer à Fontevraud. Et sur sa tombe, à la fin de l'an, elle bâtit un monastère auquel ses immenses biens furent donnés, et où elle se retira elle-même comme simple religieuse, et dont elle fut nommée première abbesse par le pape qui régnait alors.